nous.
Winnet, en direct.
Avec JC et Patricia.
Juste à se connecter avec notre cœur. Et c'est tout.
Radio X.
Bon, ben parfait. Excusez-nous, on avait des petits enjeux. Est-ce qu'il est là, notre...
Oui.
Oh, bon, ben parfait. Bon, ben écoute, on n'aura pas eu le temps de se parler avant, mais c'est pas bien grave, parce que d'après moi, les sujets, c'est pas mal ça, là. C'est pas mal les sujets du jour pour notre chroniqueur Benjamin Tremblay, qui est, sera pas long, juste au bout du fil ici. Salut, Benjamin, comment ça va, Benjamin de 7 jours sur Terre?
Salut, JC. Merci de me recevoir. Puis tu sais que t'as même pas besoin de me le dire. Tu peux m'envoyer des curveballs. Je suis un très bon frappeur.
Ouais, ben tu sais, je t'envoie mes sujets par courtoisie, parce qu'à date, penses que tu m'as jamais refusé un sujet. Là, tu dis, ben, oh, ouais, c'est bon.
Honnêtement, c'est que je fais ma revue de presse le dimanche, puis le lundi, on fait notre émission. Le mardi, je renregistre encore là-dessus. Fait que souvent, c'est déjà des dossiers que j'ai eu la chance d'étudier en profondeur. Fait que quand tu m'arrives, puis que tu me demandes maintenant ce qui se passe à Israël, Gaza ou peu importe, c'est le bon moment.
T'sais. C'est comme essayer de prendre à contre-pied un mécanicien en parlant de changement d'huile. D'après moi, il est au courant. C'est ça.
Ben, moi, l'exemple que je donnais cette semaine à mon collègue, c'est un peu, je te parlais de la game du Canadien hier. Si tu suis le hockey, tu seras pas surpris. Là.
Exactement. Tu baignes là-dedans pas mal. Fait qu'on va commencer, évidemment. Là, écoute, moi, je t'ai envoyé un courriel. C'est Trump Fest. Là, je veux dire, c'est partout, sur tous les continents. Donald Trump est là. Ouais. Il fait jaser. Tu sais, revenez peut-être rapidement sur l'Ukraine, parce que ça piétine, là, les négociations de paix. On en a parlé la semaine dernière, mais tu sais, peut-être l'élément nouveau qu'on peut amener à ce niveau-là, c'est l'espèce d'empoignade qui a eu lieu là, au début de la semaine entre les Européens et Poutine, qui ont commencé carrément et ouvertement à s'envoyer de la boîte. Là, et là, même Poutine qui est allé dire « bring it on ». Donc, si vous voulez la guerre, venez-vous-en, je suis prêt. Ouais. Ça, là, est-ce qu'on reste dans l'enflure verbale? Ou, pour moi, je ne sais pas si c'est aussi inquiétant que d'autres infos qu'on a eues. On a vraiment probablement juste à faire une espèce de guerre d'image.
Oui, exactement. Puis il y a quelque chose de malsain qui est en train de se produire actuellement. Puis je pense que c'est directement en réaction à la position de Trump, où les Européens ont l'impression qu'il faut qu'ils jouent le « bad cop ». Étant donné qu'il y a un « good cop » dans la pièce, ils interprètent que c'est Trump qui essaye, lui, d'obtenir des concessions. Mais Trump, jusqu'ici, il faut le dire, n'a pas été très loin dans la contrainte à la Russie. On a parlé de sanctions, ça n'a jamais vraiment vu le bout du jour. On a fini par les instaurer après des mois de négociations avec les Européens. On a souvent fait des propositions qui étaient relativement favorables à la Russie. Fait que là, vous avez vraiment les Européens qui ont l'impression, j'imagine, qu'il faut qu'ils compensent. Et ils sont en train de surcompenser en essayant de montrer à la Russie, si tu n'acceptes pas de dealer avec Trump, ça va devenir une négociation avec l'Europe. Ça va être nous qui va prendre charge de cette négociation-là. Puis manifestement, ils n'ont pas tort. Ça fait 50 fois que Trump dit que si ça ne va pas de son bord, il va juste retourner à la Maison-Blanche puis faire comme si rien s'était produit. Puis c'est pas ma guerre, c'est pas mon problème. C'est ça. Fait que le discours actuellement des Européens n'est pas... Il est irresponsable, mais il n'est pas totalement mauvais stratégiquement, parce qu'il incite effectivement la Russie à vouloir maintenir une négociation directe juste avec Trump. Et là, ce qu'on voit, bien, c'est parfaitement compréhensible dans le contexte, c'est les États-Unis qui excluent de plus en plus l'Europe de la table de négociation. Et on fait des propositions sans leur en parler. On a vu le fameux plan de paix. On n'a pas inclus l'Europe là-dedans. Et donc, l'Europe se bat beaucoup actuellement pour ne pas rester en marge, pour ne pas être ignoré puis faire partie de la discussion, pour ne pas devenir irrelevant essentiellement. Au bout de la ligne, ça reste quand même une situation de sécurité qui les concerne beaucoup plus que les États-Unis, et qu'on comprend pourquoi ils sont aussi hostiles à l'idée. Ben oui, eux autres, on comprend. Les États-Unis sont protégés par deux océans. L'Ukraine, il faut comprendre ce que ça représente pour l'Europe, là. C'est un peu un État tampon. c'est un peu un hard break pour arrêter la Russie dans l'éventualité d'une invasion. Les Européens s'en foutent des pays baltes. Ils s'en foutent de la Lituanie, de l'Estonie, de l'Ukraine, de la Géorgie, de tous ceux qui sont sur l'extrême-est de la frontière avec la Russie. Ils sont là pour manger la claque et servir de tampon dans l'éventualité d'une vraie guerre continentale. Pas un affrontement comme ça, périphérique, avec un pays comme l'Ukraine. Je parle d'une guerre avec l'OTAN. T'as besoin de tampons.
Une guerre ouverte, là, tu sais, où tu te dis au moins, il y a une bande de terrain, mais c'est plate pour eux autres, là, parce qu'ils seront les premiers sacrifiés, mais ça va... Les Russes devront passer par-dessus ça avant d'arriver chez nous. Mais, même à ça, parce que, tu sais, tu le dis, c'est la géographie... On n'a peut-être pas conscience tout le temps parce qu'on la vit pas, nous, ici. On a deux immenses pays côte à côte qui prennent des jours à traverser, alors qu'en Europe, c'est... Tu sais, je me souviens pas l'exact temps que ça prend, mais de partir de la France pour aller en Ukraine, c'est une affaire de 7 heures d'auto, là. Tu sais, t'es pas...
Ah oui, absolument.
T'es pas, c'est comme partir d'ici puis aller virer au bout de la côte nord. C'est pas si loin que ça. T'sais, fait que des fois, peut-être qu'on perd de vue, là, mais pour eux autres, c'est à côté, là.
C'est à côté. L'autre fois, je regardais, j'étudiais beaucoup le Congo sur un autre dossier, puis la République démocratique, qui est gigantesque aussi. Passer de la capitale jusque dans l'est du pays, c'est l'équivalent de conduire de Paris à Moscou.
Ah oui?
Alors, c'est hallucinant. Puis ça, c'est important de le mettre en perspective historiquement parlant aussi, au sens où faut pas remonter très loin, là. Et ce qu'on a eu, c'est de multiples invasions des deux bords. La Russie vers, bien sûr, les pays de l'Est, vers la France, vers les pays d'Europe occidentale, et l'inverse aussi. Ouais. Moscou a été brûlé à plusieurs occasions. Puis ça, ben, quand tu parlais tantôt de géographie, tu mets vraiment le doigt dessus, là. Si vous regardez une carte qui est absolument fascinante, une carte agricole, allez voir n'importe quelle carte de productivité des terres ou terres agricoles, ou même une carte topographique qui vous montre juste les montagnes, ce que vous allez voir, c'est l'énorme plaine européenne. C'est, en fait, on l'appelle la plaine eurasiatique. Ouais. C'est un énorme corridor parfaitement flat et parfait pour des armées qui passent du cœur de la Russie jusqu'au cœur de l'Europe occidentale. Fait que, naturellement, c'est des autoroutes pour les armées. Donc, eux voient ça comme... C'est pas comme envahir les États-Unis, c'est pas comme envahir le Mexique ou peu importe.
Ça se fait.
Ça peut se passer très vite, puis on l'a vu à d'autres moments dans l'histoire où les Allemands passent de l'Allemagne aux portes de la France à l'intérieur de quelques semaines. On a vu ça par le passé. Là.
Et si je te mène concrètement là, dans les négociations, parce que là, bon, au début de semaine, on vient d'en parler, l'espèce de guerre d'insultes, puis de moi, je suis prêt, puis amène-toi, puis je suis prêt, puis moi, t'es mus, je vais te montrer les miens. Et là, hier, tu sais, dans le même 3-4 jours, là, hier, Vladimir Poutine sort pour dire... Moi, je suis prêt là, à négocier, puis je suis prêt. Y a pas de... Mais ça, en même temps, est-ce que vraiment on embarque encore là-dedans? Parce que ça fait depuis le début qu'il nous dit ça, puis qu'il continue à bombarder comme un fou. Là, y a pas de...
Ben, il semble qu'il y a vraiment une intention de négocier du côté des Russes, qui était depuis le début, faut le dire, là, obstruée par des positions absolutistes, maximalistes de l'Ukraine. On en parlait la semaine passée. Zelensky donnait aucune marge de manœuvre. Puis on comprend, politiquement, il n'y avait pas de choix. Tu parles aux Ukrainiens. Les Ukrainiens ne voulaient rien concéder. Mais la posture qu'il adoptait, c'était essentiellement « On va aller jusqu'au bout, on va expulser les Russes, puis vous allez nous rembourser pour ce que vous avez brisé. » Ça ne tient pas la route. Et là, ce qu'on entend à partir de la Russie puis de ce cycle de négociations-là, c'est qu'il y a un certain nombre de trucs sur lesquels la Russie est prête à concéder et il y en a d'autres sur lesquels ils ne sont pas pantoute. Sur la question du territoire, ils ne veulent rien savoir. Sur la question de la place de l'OTAN en Ukraine, puis ils ne veulent rien savoir de ça. Maintenant, ils sont très négociables sur la question des fonds qui ont été gelés, l'argent de la Russie qui a été gelé. Là-dessus, là, on voulait la ravoir. De plus en plus, la Russie nous fait comprendre que vous allez pouvoir prendre cet argent-là puis le garder. On est flexible là-dessus. Ouais. On comprend qu'il va avoir une conséquence financière. Ensuite, sur la réintégration de la Russie dans l'économie, tout ça, ils comprennent que ça ne se fera pas tout de suite. Fait que la Russie est prête à négocier, mais avec la même position depuis le début. Le problème, c'est qu'on savait que c'est là que ça allait finir. La question, c'était juste quand est-ce que l'Ukraine allait finir psychologiquement par arriver à ce point-là. Là, l'Ukraine a accepté que, écoute, the writing is on the wall. Si c'est pas la proposition américaine, ça va être un hiver extrêmement difficile. Et donc, ben, on commence à offrir des concessions. Là, les Européens ne veulent pas la fin de la guerre. Et ça, il faut le comprendre. Ouais. C'est parfaitement compréhensible. On disait tantôt à cause de la géopolitique. Les Européens, c'est un cadeau du ciel, ce qu'ils ont là. ils ont la possibilité d'exclure la Russie de leur espace stratégique. Si la Russie est destinée à dominer cet espace-là, toute l'Europe de l'Est, c'est destiné à être un espace post-soviétique. Ça, c'est censé être dans leur zone d'influence au sens géopolitique de la chose, pas au sens du droit moral, etc. Ils ont le droit d'être indépendants et tout ça. Mais le fait est que ce sont des sphères d'influence stratégique qui appartiennent normalement à Russie. Donc, eux, de leur côté, pour les Européens, ils se disent « Hey, on a une opportunité incroyable de dépenser à peu près 1 milliard par mois à gang, ce qui, au bout de la ligne, est vraiment pas grand-chose, pour saigner la Russie à coups de dizaines de milliers de soldats, accélérer sa crise démographique, nuire à son économie, l'expulser du marché européen. » Tout ça, ça aurait été... tu sais, on s'entend économiquement très douloureux, mais stratégiquement, une vraie bonanza pour l'Europe, là, c'est absolument spectaculaire. Et à travers tout ça... un grand réarmement qui a été prétexté par la présence de la Russie.
Mondial.
Où tout le monde commence à s'acheter. Ben oui,
même
tout
le Canada commence à s'armer. Oui, oui.
Exactement. Fait que ça, là-dessus, moi, je pense qu'il faut reconnaître la nature profonde du conflit auquel on assiste actuellement, qui n'est pas juste entre l'Ukraine et la Russie, mais plus largement entre des intérêts opposés, deux blocs civilisationnels qui s'affrontent, l'Est puis l'Ouest.
Maintenant, on prend le globe terrestre, on lui fait faire un demi-tour et on change de continent. L'histoire entre Trump, les États-Unis et le Venezuela qui a semblé commencer par une espèce de... Bon, il y a de la drogue, on a trouvé des cartels, on a trouvé des infos, on défait les bateaux, on fait exploser tout le monde. Et là, écoute, ça a levé d'un cran. Là. Donc, on a fermé l'espace aérien du Venezuela aux États-Unis. on a Trump hier qui commence à nous dire ouvertement... Attendez qu'on débarque sur Terre, underground, là, avec nos équipements puis notre armée. Là, on parle d'une invasion. Trump commence à menacer la Colombie. Celle-là, je dois avouer que je ne l'avais pas vu venir. Là, ça fait plusieurs semaines qu'on le voit se déployer. Là, mais mettons, à l'élection de Trump, Benjamin, là, tu me dis, dans un an, Trump va être en guerre avec des pays d'Amérique du Sud. Je ne l'avais pas tant vu venir que ça. Qu'est-ce qu'il veut exactement, hein?
C'est une très bonne question. Faut quand même revenir, là. Je me souviens, en 2019, Trump faisait campagne à ce moment-là, puis c'était la fin de son premier mandat. Puis il nous disait déjà, on aurait dû y aller. On aurait dû aller au Venezuela, on aurait sorti tout le pétrole.
Mais
on aurait
le pétrole,
dû
renverser. On va le dire clairement.
Il le disait ouvertement à ce moment-là. C'est qu'on a vraiment on s'entend. Là. Ça fait des années que le Venezuela est problématique pour les États-Unis. Maintenant, soyons clairs, les Américains achètent du pétrole au Venezuela au moment où on se parle. Au moment où on se parle, t'as à peu près 80-90% du pétrole qui s'en va en Chine et le reste, au complet, s'en va aux États-Unis. Puis les États-Unis payent même pas pour. À cause des sanctions sur le Venezuela, ils reçoivent pour à peu près, écoute, on parle de plusieurs milliards de dollars en pétrole par année qui est offert par le Venezuela. Puis sais-tu comment qu'on paye pour? On lui donne du pétrole. Parce qu'on a des sanctions qui disent on peut pas t'acheter ton pétrole, on en extrait un petit peu plus, puis on leur donne. Puis on dit, tiens, on a été payé en nature, puis arrange-toi avec ça. Fait que nous autres, on extrait du pétrole de ça, on est très avantageux. C'est Chevron là, qui est actif au Venezuela. Fait que Trump, clairement, ça, il y a quelque chose de malsain, je dois te le confier, là, je le confesse. Tu regardes la télévision américaine, puis des gens qui sortent des rencontres avec Trump, là, qui sortent des meetings à Maison-Blanche, au bureau Oval, des meetings sur la question du Venezuela, des représentants, des sénateurs, ils émergent de là, mon gars, les yeux gros comme des deux piastres, en tapant du pied, excités à l'idée de rentrer au Venezuela et d'aller chercher le pétrole et de faire rentrer les entreprises américaines. C'est carrément une déclaration qu'on dit. On dit, enfin, les business américaines vont pouvoir rentrer, aller réparer toutes les rigs de pétrole, recommencer à extraire, multiplier la production. Trump le dit lui-même, il dit, ça va être right next door, ça va être juste à côté de chez nous. Fait que oui, le pétrole, c'est impossible de l'évacuer. Les Américains en ont besoin. Et surtout, il y a l'élément qu'on ne peut pas évacuer là-dessus, là. Les Américains ont moins besoin du pétrole vénézuélien que la Chine en a besoin.
Ouais, c'est
la
ça,
Chine importe, la Chine importe tout son pétrole ou presque. Elle n'en produit virtuellement pas, puis elle prend à 2-3 places dans le monde, surtout au Moyen-Orient, notamment en Iran. 90% du pétrole iranien s'en va en Chine, puis à peu près 90% du pétrole du Venezuela, une des plus grosses réserves au monde, qui s'en va aussi en Chine.
Ouais.
Fait que avant d'être une victoire pour les États-Unis, moi, je pense que Trump va présenter ça comme une défaite pour la Chine, une défaite pour la Russie, une défaite pour l'Iran. Il va dire que c'est essentiellement sortir des adversaires américains de la sphère d'influence des États-Unis. Puis, je mentionne, il vaut la peine de le dire quand même là-dessus, là, Trump peut absolument te faire un spin positif de tout ça, là. Puis dire que, justement, ça a été un grand coup pour les États-Unis, que ces pays-là étaient... Ben oui, que c'était un problème, puis qu'il fallait agir. Et au point où on se rend, je terminerai là-dessus, parce que là, ça devient vraiment embarrassant pour l'administration américaine. On a atteint le point de non-retour, déjà, là. Quand on dit « ça va-tu avoir lieu, ça va-tu avoir... c'est-tu un bluff? » C'est mieux de ne pas être un bluff au point où on en est, là.
Non, mais là, il est en train de caler l'armée, là, tu sais, sur Terre, ben, là, un débarquement, carrément.
Puis d'ailleurs, le panel éditorial du Wall Street Journal a publié quelque chose là-dessus cette semaine en disant ouvertement, on parle d'un journal Murdoch, on s'entend, c'est un journal très à droite, le Wall Street Journal, mais qui nous publie quelque chose en disant, là, on n'a plus le choix, là. Là, c'est la crédibilité des États-Unis qui est en jeu. On n'a pas le choix de le renverser. On est trop commis. Et c'est absolument vrai. Trump s'est peinturé dans le coin à faire comprendre à tout le monde. Puis regardez Maduro en disant, tu t'en vas, mon homme. Tu t'en vas sans son transverse. Ouais. Tu t'en vas sans son transverse. Puis là, tranquillement, augmenter la pression. Tu négocies avec lui en coulisses. Tu lui proposes un exil. Il te dit non. Puis toi, tu fais rien.
Ouais.
Écoute, mon homme, c'est fini.
Exactement. Ça me fait penser à Barack Obama qui parlait de la ligne rouge. L'autre, il traverse la ligne rouge à deux pieds, puis il se passe rien. Mais ils ont perdu toute crédibilité.
Exactement.
Ben oui, exactement.
C'est exactement. Fait que là, si tu veux parler à la Chine après, tu veux parler à l'Iran, t'es en négociation encore là, avec l'Iran qui veut recommencer le cycle de négociation sur la question nucléaire. Tu peux pas avoir l'air du clown qui te laisse marcher ses pieds par un État infiniment moins fort que le tien. Parce que, bon, on se dit, si le Venezuela peut te tenir tête sans aucune conséquence...
Tout le monde peut.
Who can't?
Ben oui,
tout le monde peut.
Mais, tu sais, moi, je vois quand même surtout un changement dans l'attitude et la façon de faire, parce qu'on s'entend, on n'a pas de menterie entre nous, là. Les Américains sont en Amérique du Sud depuis toujours. C'est juste qu'avant, c'était la CIA qui faisait des manœuvres secrètes en cachette, qui infiltraient des gouvernements, qui tuaient du monde à distance, qui faisaient des jobs de bras. Maintenant, on dirait que c'est du garde. Ça donne rien, tout ça, là. On va y aller, visière levée, on y va. Il y a quand même ça dans le changement d'analyse qu'on doit apporter, là. Maintenant, on le fait, puis comme tu dis, c'est quasiment rendu vendable. T'sais, il peut convaincre le monde, puis dire « c'est nécessaire ».
Puis le pire, c'est qu'ils ont offert à Maduro. Là. Ils ont offert de rester au pouvoir. On te fait juste me donner tout ce que tu veux. Il a accepté. L'opposition est arrivée avec une meilleure offre. Ils ont dit, ben gars, on va vous donner tout le pétrole. On va privatiser l'entreprise nationale. Là-bas, le pétrole est nationalisé. Ils disent, on va le vendre. On est prêt à vous vendre la compagnie au complet. Fait que là, les Américains ont arrêté la négociation. On a su cette semaine, là, dans les derniers jours, Trump l'a confirmé qu'il avait offert un exil en Russie. À Maduro, qui avait dit, écoute, pars, t'as le droit d'y aller, t'as le droit de faire un exil confortable pour toi, pour ta famille. Oui. Il a refusé, il a demandé à garder le contrôle de l'armée, notamment. Il dit, je vais vous donner le gouvernement, mais moi, je veux garder l'armée.
Il va aller au bout.
Les Américains ont perdu patience, pour ça, je te dis, là, ce qu'on risque de voir, ça explique aussi là, l'impasse, l'espèce d'enlisement ou de mise sur la glace qu'on a vu dans les derniers jours où on frappait des navires, mais il n'y avait pas vraiment d'escalade dans les actions américaines. On comprend maintenant, c'est qu'il y avait des négociations en coulisses pour voir s'il y avait moyen de faire sortir Maduro. Puis là, ben, on comprend les déclarations de Trump. Et là-dessus, je dirais, souvenez-vous ce qui s'est passé avec l'Iran. Hein? Trump a joué le niaiseux jusqu'à la fin.
Ouais.
Trump a joué la pièce de théâtre des Israéliens. Elle disait, non, je les empêche de bombarder, ça n'aura pas lieu, inquiétez-vous pas, ça détruirait la... Puis on a su qu'il était déjà au courant que ça allait avoir lieu, puis même qu'il avait donné le feu vert aux Israéliens à ce moment-là.
Effectivement.
Fait qu'il ne faudrait pas être surpris. Là. J'écoutais hier à la télévision représentante républicaine, quand on lui posait la question, là, vous avez parlé beaucoup avec le président Trump, est-ce que vous attendez à des bombardements de ces prochains mois, prochaines semaines, prochains jours? Elle ne laisse même pas finir sa question, elle dit « minutes ». Donc, ouais, j'ai l'impression qu'on va probablement voir ça dans les 24 à 72 prochaines heures.
Oh, OK, quand même. C'est écrit dans le ciel. Bon, ben, on va se préparer, on va analyser ça, puis on s'en reparlera probablement la semaine prochaine. Benjamin, merci beaucoup de ton temps, toujours intéressant.
Salut, JC.
Salut, bye. Benjamin Tremblay, mesdames, messieurs, trouvez-le sur YouTube. 7 jours sur Terre, vous voulez en savoir plus sur la géopolitique, tout ce qui se passe à la planète, je vous dirais que c'est un bon filon. 13-24, on fait une pause, Gary s'en vient.
Ouellet, en direct.
En direct. On revient dans pas long.
Radio X.